Le conseil des anciens de chaque village
en
tradition,
la culture,
la tradition, la tradition, la tradition, la tradition. Non, la tradition qui vient avant la culture.
Eh bien oui. Si jamais vous faites la querelle,
on vous convoque
à la casa palabra. C'est là où on discute. Le chef suprême du village donne l'ordre du village. Le chef du village donne l'ordre à ses conseillers.
Je lis dans votre étude, Laurence Touré, des citations de paroles de villageois. C'est un exodant dogon, Dena, qui dit « Les Peuls sont beaucoup plus propres parce qu'ils travaillent peu et font des travaux moins durs. Ils passent la journée couchés. Le manque de temps joue chez les dogons. Les Peuls utilisent les boules de vache pour cuisiner et donc ils n'ont pas de problème de bois à trouver. » On entend encore une femme dogon, Yawa, qui dit « Les Peuls sont plus propres que les dogons parce qu'ils ont compris le monde de la propreté et ne travaillent pas comme les dogons. Celui qui travaille toujours ne peut pas être propre. »
En fait, on a travaillé dans les deux milieux parce que les résultats des études épidémiologiques en milieu, dans les deux cercles de Bankass et de Bandiagara, il y a des populations Peuls et dogons. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément, il y avait beaucoup plus le taux de trachome était beaucoup plus élevé chez les populations dogons que chez les populations peuls. Donc pourquoi, alors qu'ils partagent le même milieu, ils sont assez proches, ils sont voisins, pourquoi les uns et les autres ont des niveaux de trachome? Donc on s'est intéressé aux deux populations et on essaie de comprendre ce qu'il est. Alors ce qui ressort, c'est qu'effectivement il y a des conditions du milieu qui sont assez semblables, hein, puisque il y a un problème d'eau dans les deux milieux, peut-être encore plus en milieu peul, parce que les gens vivent encore plus en brousse souvent, et donc il n'y a pas de point d'eau, etc. C'est aussi conditions dures, villageoises, enfin. Mais ce qui fait la grande différence, et ce qui ressort des propos des uns et des autres, c'est que les dogons, effectivement, travaillent beaucoup plus et ont des travaux beaucoup plus lourds, salissants, pénibles, acceptent de ces tâches-là. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui font les travaux durs. Quand il y a des maisons à construire, on fait appel aux dogons. Quand il y a du bois à aller chercher, si on a besoin de bois, on fait appel aux dogons. Les poteries, c'est les dogons qui les construisent. La transformation alimentaire, c'est les femmes dogons qui la font. Les peuls se contentent de leurs animaux, de suivre leurs animaux. Enfin, se contentent, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire là, mais ce sont dans l'élevage. Les femmes vendent le lait, etc. Donc, il y a pas, c'est pas qu'ils ont des pratiques d'hygiène. C'est pas que les peuls ont des pratiques d'hygiène beaucoup plus raffinées, importantes que les dogons, mais ils salissent beaucoup moins. C'est ce qui ressort. Des études, des propos des uns et des autres, des constats qu'on a pu faire, parce qu'en milieu peul aussi bien que dogon, on a vu à peu près les mêmes des pratiques d'hygiène assez semblables. Il y a pas, les peuls ne passent pas énormément plus de temps à leur toilette. Ils utilisent souvent moins d'eau que les dogons pour les toilettes, etc. Donc c'est vraiment le mode de vie, le choix de vie qui fait qu'il y a cette différence. On peut l'expliquer en partie. Bon, il y a le poids de l'islam aussi qui est beaucoup plus fort, hein, chez les peuls. Donc les ablutions quotidiennes des adultes, des choses comme ça qui jouent certainement. Les déplacements aussi. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené à faire ces différences entre les deux milieux.
Une vieille accoucheuse traditionnelle dogon dans le village de Sougoudourkoum dit « Aujourd'hui, la religion fait que tout le monde parle de prier et de se laver. Avec l'islam, on n'aime pas du tout la saleté. L'islam existe dans le village depuis longtemps, depuis le temps de Modibo, premier président du Mali indépendant, dans les années 60. L'islam dit que quand tu es converti à la religion de la propreté, tu dois être toujours propre, pur, car si tu es sale et impur, ce sera très mauvais pour toi dans l'au-delà. Il n'est pas question de maladie dans tout cela. » Une autre accoucheuse traditionnelle à Giwagou Fitobé. Aujourd'hui, les gens sont plus propres car la génération actuelle aime la propreté. Ce sont les déplacements à l'étranger qui ont amené cela. Avant, les gens se déplaçaient moins que maintenant. Les enfants d'aujourd'hui sont plus sensibles à tout ce qui est étranger et il y a aussi l'attrait de l'argent. Un exodant de 30 ans à Éré. dit « De mon enfance à aujourd'hui, l'hygiène a évolué. Autrefois, les enfants se promenaient nus et on ne lavait pas les vêtements, mais aujourd'hui, les jeunes les lavent tous les 3 jours. Les bébés sont lavés matin et soir, surtout par les femmes qui sont parties en exode, avec du savon si le bébé est en bonne santé, sans savon s'il est malade, parce que le savon gâte l'effet des médicaments. » Ce sont des décoctions. Les exodantes lavent les enfants plus grands 2 fois par jour, voire plus s'il y a de la boue, sans savon la plupart du temps. Les autres mères se contentent de laver chaque petit soir.
Bah, le savon, par exemple, je me suis rendu compte d'après les enquêtes, effectivement, avant on n'utilisait pas. Il y avait un savon traditionnel, mais qui était utilisé justement beaucoup plus pour lutter contre les impuretés, les situations d'impureté. Les femmes pendant les périodes de menstrues, l'enfant quand il naît et qu'il est là à se débarrasser de pas mal d'impuretés. Donc aussi les corps. Après le décès, donc c'est un savon qui avait cette utilisation là, et maintenant bon, les gens utilisent beaucoup plus, enfin ce savon traditionnel est en train de disparaître au profit des savons qu'on trouve un peu partout. Bon, c'est aussi une dépense nouvelle et on l'utilise, je me suis rendu compte en tout cas au niveau des études que c'était une utilisation assez très limité en quelque sorte. Les gens utilisent encore très peu le savon, et surtout les hommes. Le savon a toujours été, c'est toujours très antinomique hein, par rapport à tous les protections, dans les, en particulier les hommes, hein, parce que ça ne touche pas vraiment les femmes. Mais les hommes se lavent avec des produits qui les rendent invulnérables, etc. Ils ont des petites amulettes et tout ça qui perdent complètement leur efficacité si c'est lavé au savon. Donc ça, un homme ne doit pas se laver, être trop propre et se priver de tout ce qui fait sa force. Donc c'est pour ça que être trop propre, c'est aussi perdre cette force que donnent les médicaments, les produits, toutes les amulettes qui ne supportent pas du tout l'usage du savon.
Un vieux peul d'en bas dit « Avant, les hommes ne se lavaient jamais avec du savon, on risque de rendre inefficace leur gris-gris de protection, invulnérabilité par rapport au fer, au fusil, et de détériorer leur virilité. N'utilisaient le savon que pour les habits. Les femmes pouvaient se laver avec le savon car elles n'ont pas ce type d'amulette. Avant, on lavait les enfants avec le savon noir jusqu'à ce qu'ils soient introduits dans la société des hommes. » Jusqu'à maintenant, des vieux n'acceptent pas de se laver avec du savon ou de se mettre de l'eau sur la tête. Mais ces histoires font rire les jeunes aujourd'hui. Ils n'ont plus ce genre de protection d'invulnérabilité. D'ailleurs, l'efficacité de ces objets suppose le respect de certaines règles qu'ils ne reconnaissent plus. Par exemple, ces objets n'acceptent pas les situations d'impureté qui ne gênent pas les jeunes d'aujourd'hui, comme les relations sexuelles en portant ces objets, les relations sexuelles avec des femmes en menstrues, etc. Et le chef d'un village d'Ogon, Yawa, dit « Nous, on ne veut pas que les enfants utilisent le savon pour se laver, car cela rend le corps des garçons doux et lisse. On dit aussi souvent que cela diminue la force de l'homme, la puissance sexuelle. C'est pourquoi on se moque aujourd'hui d'un garçon toujours propre. » Et encore un maître coranique peul à Giwagu Fitobe. On dit chez nous que si un garçon se lave avec du savon, ses vaches, donc celles qu'il garde, ne grossiront pas. En effet, les vaches n'aiment pas l'odeur du savon sur le corps du berger. Par ailleurs, le savon rend les pieds du berger trop lisses et donc peu résistants au sable chaud et aux épines de la brousse.
Oui, ça rend trop fragile pour arriver à résister.
L'homme est, pour, selon eux, l'homme doit être sale. Un homme, c'est quelqu'un qui est sale. La propriété, c'est pour la femme. Chez nous, la conception, c'est comme ça. L'homme, en tant qu'homme, doit être sale à tout moment.
Jean Saïd.
Quelqu'un qui est propre. Mais un homme qui est propre n'est pas homme. Il est appelé, il est plus proche de la femme que de l'homme. Et chez nous, quand tu es propre, tu n'es plus noir comme avant, mais tu es devenu une autre personne. Tu es devenu l'homme blanc, un animal. On t'appelle un blanc. Quelqu'un qui est tout en propre, on dit qu'il a tendance à être un blanc.
Des jeunes garçons à Sogou Durkoum racontent « Les maîtres d'école menacent ceux qui arrivent sales en classe d'être lavés par des enfants de sexe opposé. Le maître a fait cela une fois, mais les filles n'ont pas exécuté la sanction et les deux élèves ont fui la classe. Un élève est sorti de la classe avec une bouilloire pour les laver, mais le maître l'a engueulé car il n'était pas le plus âgé. Le maître botte ceux qui sont sales et les garde en classe. Les vêtements doivent être propres aussi.
Alors, c'est très très rare, même du côté du sida, qu'on parle au niveau des pays d'Ogon. Moi, on m'a failli vraiment attacher au niveau de la place publique.
Emmanuel Saï.
Parce que je suis le premier à aller à l'école dans le village. En 1987, je suis venu dire dans le village qu'il y a une maladie qu'on appelle le sida. Moi, j'ai appris avec mon professeur. Mon papa me dit, donc le fait d'envoyer les enfants à l'école, ça crée d'une maladie, et ça crée des sida. Moi, j'ai dit, mais c'est mon professeur qui m'a dit, d'accord. Donc, avant ma naissance, il n'y avait pas de sida. Et depuis la création du village, il n'y a pas une maladie de sida. Aujourd'hui, toi, tu pars maintenant à l'école, tu parles de sida, ça veut dire que je n'ai pas droit à coucher avec une autre, avec les filles. Ou bien, s'il commence à envoyer maintenant tous les enfants à l'école, tous les enfants auront des sida. Selon ma pensée, c'est ça. Si c'est ça, et ils sont contre. Ils ne veulent même pas créer une école ici.
En ville aussi, les jeunes aussi se méfient d'aller et donner leur sang parce que ils disent que souvent, ce n'est pas la maladie qui tue, mais c'est la pensée de la maladie qui tue. Il y a certains qui ont le sida, mais une fois qu'on n'a pas su, une fois qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas la maladie, ils peuvent encore survivre. Mais une fois qu'on te dit que tu as la maladie, tu perds, tu maigris et tu meurs. C'est là la conception des jeunes de la ville. Parce qu'ils préfèrent ne pas aller donner leur sang. Parce que les docteurs vont dire qu'ils ont le sida. Et d'un coup, ils vont commencer à dépérir parce qu'ils sont appelés à mourir. Parce que le sida n'a pas de remède. Et une fois que tu n'es pas informé, tu es à l'aise. Et tu peux encore faire encore un peu de temps encore après.
Hey, ne t'en ai pas. Nitakara bamako ika kone jarabiye kone be tunga nyefe kone be klinga bara kaseka wari mara kaleka gleki kurani samra kurani vila kurani nitakara bamako ika kone jarabiye kone be tunga nyefe kone be klinga bara katlaka shika bara kaseka wari mara kaleka jimso wari numso wari fleso wari nitakara bamako ika kone jarabiye kone be tunga nyefe kone be klinga hami katlaka shika hami kaleka dumeni songo fini songo kiki songo Ibori fani baka so kataka furu so lae kadoka poko furu korode sigane munyu munyu sabali sabali yere dongo dambe do sigane munyu munyu sabali sabali yere dongo dambe do Kufute gleki bani ungo furu fena na kono kodo furu fena na tusu kasi furu fena na nyani kodo furu fena na triki trokodo Ika furu mogo mai bemi fenga furu kana ke wariko furu kana ke samiko furu kana ke finiko furu kana ke mobliko Ika fru mohoma hibe mi fe fru mohoma min li fe fru kanake wariko sanuko finiko samrako dekiko fru kanake wariko finiko samrako.
Il faut savoir que les musiciens dans une société africaine traditionnelle offrent à leur public quelque chose de plus qu'une expérience purement musicale.
Il y a 2 ans, au cours d'un long séjour que j'avais fait ici pendant l'hivernage, Gounou m'avait emmené en moto au marché de Komokani. C'est un marché qui bat son plein la nuit. Il n'était quasiment pas éclairé, quelques lampes à pétrole seulement, et les lampes de poche que les gens se braquaient dans la figure pour se reconnaître. La bière de mille tournait de bouche en bouche dans des calebasses. On faisait le tour des vendeuses, et on goûtait afin de choisir la meilleure bière. Au fil des salutations, on buvait dans des dizaines de calebasses. J'étais au bas d'un village dont je sentais la présence, mais que je ne voyais pas, et je communiais avec la population par le rebord des calebasses enduits de salive. Ici, on oublie l'hygiène, on se noie dans une foule de gens qu'on voit à peine, et on avale les microbes de villages entiers. Nous étions repartis à moto dans la brousse, dans la nuit qui s'était refermée dans notre dos sur le petit halo de lumière braillard du marché. Est-ce que vous avez choisi de travailler sur la falaise ?
Bon, moi je suis venu, j'en suis venu à travailler en Pays d'Ogon.
Éric Joly.
Tout simplement parce que d'abord j'ai été un touriste en Pays d'Ogon. Je le dis par ailleurs, donc je n'ai pas honte, c'est pas un secret. C'est vrai qu'au départ, quelqu'un qui arrive en Pays d'Ogon est fasciné, ne serait-ce que par le paysage, avec cette falaise qui balafre le paysage, avec ces paysages un peu chaotiques quand on est sur le plateau. Et c'est vrai que c'est un choc. C'est les risques, il disait, dans l'Afrique fantôme, quand ils arrivent en 1931 pour la première fois en Pays d'Ogon, ils sont tous... complètement ébahi par ce paysage, mais aussi par ce cadre un peu mystérieux où il y a des hôtels un peu partout, où il y a des rituels qui se passent, des funérailles qui d'un seul coup se passent sous leurs yeux, etc. Cette atmosphère. Donc c'est vrai qu'on est pris d'abord par le paysage. On est pris par différents biais. Et bon, moi, je suis arrivé en Pays d'Ogon en 79 pour la première fois en traversant le Sahara, en étant en jouant un peu les routards, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. J'étais aussi très fasciné. Mais, donc, il y a ce côté un peu exotique, cette fascination pour l'étrange, l'étrangeté, l'ailleurs. Mais j'étais fasciné aussi par le fait effectivement de partager des calebasses de bière de mille avec les vieux, toute cette ambiance très particulière qui vous fait croire, mais là encore c'est une fiction évidemment, que vous êtes un peu intégré dans ce monde, qu'on vous accepte, que vous êtes immergé. C'est une fiction, mais c'est une illusion, bien entendu. Mais quand on est touriste, qu'on débarque et qu'effectivement, on vous accueille avec chaleur, etc., c'est quelque chose de marquant, surtout quand on est jeune, c'est son premier grand voyage. Donc voilà, moi, j'ai continué à nouer des contacts en Pays d'Ogon, à revenir fréquemment en Pays d'Ogon, et c'est pour ça que j'ai ensuite commencé à faire des études d'ethnologie, pour avoir un prétexte pour séjourner longtemps en Pays d'Ogon. Et voilà, l'ethnologie m'a donné ce prétexte pour passer du temps, pour rester longtemps. Bon, j'ai d'abord travaillé, c'est un sujet qui fait sourire généralement, mais sur la bière de mille, un peu dans une optique monographique, c'est-à-dire essayer de voir tous les aspects de la boisson. La bière de mille, c'est la boisson traditionnelle, enfin artisanale de cette région, qui n'est pas propre au Dogon d'ailleurs, hein, qu'on retrouve dans toute l'Afrique, dans toute la bande, en tout cas soudano-sahélienne. Et bon, voilà, j'ai travaillé un peu sur la fabrication, mais aussi sur sa dimension économique, sociale, religieuse, parce que c'est une boisson qui est présente un peu dans toutes les sphères de la société, et que c'était un bon moyen d'appréhender en fait une société dans sa complexité, dans sa diversité et dans son dynamisme aussi, parce que la bière est au cœur aussi des changements actuels en Pays d'Ogon, ne serait-ce que parce que avec l'islam, certains refusent de boire de la bière, refusent de la préparer, mais aussi parce qu'il y a des adaptations, enfin justement parce que aussi il y a des musulmans qui continuent de boire la bière, mais à l'intérieur de leur village, pas à l'extérieur. Enfin, il y a tout un dynamisme qui est lié à la bière. Il y a des changements aussi dans la façon de boire la bière. Autrefois, la bière était uniquement vendue au marché, ou alors une fois par semaine, en tout cas par semaine d'Ogon de 5 jours, le jour de congé, le cinquième jour, le jour interdit comme on dit en d'Ogon, où la femme là pouvait faire de la bière, mais elle amenait, au lieu de la vendre dans sa concession familiale, elle l'amenait à ce moment-là au Toguna, c'est-à-dire à l'abri des hommes. Après l'avoir fait goûter d'ailleurs au plus vieux, il y avait tout un cérémonial avant pour que le plus vieux donne le top départ, parce qu'à ce moment-là, tous les hommes venaient au Toguna, à l'abri des hommes, et se partageaient la bière selon par ordre d'âge décroissant. C'est-à-dire qu'il y avait un puiseur de bière, comme lors des rituels, c'était généralement un des plus jeunes. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était avant les années 50, hein, c'était uniquement les hommes d'âge mûr, à partir de 40 ans, et les vieux, qui buvaient. Les jeunes étaient totalement exclus, sauf au marché éventuellement, mais au niveau de cette consommation au Toguna, était totalement exclu. Et donc c'était le puiseur de bière qui en fait remplissait toute une tournée. Chacun buvait par ordre d'âge décroissant. Et à la fin, chacun payait ce qu'il avait consommé. Le puiseur de bière prenait l'argent et rapportait l'argent avec la jarre de bière vide à la dolotière. Donc la dolotière était totalement, dépendante des hommes pour son commerce. Elle était dépossédée d'une certaine manière, même si elle conservait l'intégralité du bénéfice. Ce n'était pas elle qui officiait. Et il n'y avait pas non plus la liberté qu'il existe aujourd'hui dans les cabarets, c'est-à-dire que tout était réglé par les vieux en fonction de... Et ce n'est que vers la fin des années 50 dans certaines régions, voire beaucoup plus tard dans d'autres, que petit à petit, la bière s'est déplacée vers la concession des dolotières et où, du coup, la dolotière a commencé à vendre elle-même et de façon beaucoup plus libre la bière, où les gens ont commencé à payer chacun pour soi. Au départ, il y a une situation un peu intermédiaire où on se déplaçait dans le cabaret de la Dolotière, mais où chacun où on se réunissait autour d'une grande jarre et où, là encore, chacun payait sa consommation. Quelqu'un récupérait l'argent et payait la Dolotière. Et puis, en fait, on en est arrivé à une situation où là, chacun paye individuellement. Chacun arrive aussi au cabaret quand il veut. Enfin, même s'il faut faire attention qu'il ne faut pas arriver trop tard, sinon il n'y a plus rien. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison que les gens réservent leur bière à l'avance en déposant un bidon de bière qu'ils peuvent boire sur place, d'ailleurs, ou alors remporter chez eux éventuellement, ce qui est une évolution récente. Au départ, il n'y avait que les vieux qui pouvaient boire chez eux. C'était très mal vu qu'un homme d'âge mûr réserve sa bière et au cabaret et l'emporte chez lui. L'évolution aussi, c'est que les jeunes fréquentent aussi les cabarets. Maintenant, depuis que le cabaret s'est déplacé dans chez la Dolotière, parce qu'au départ, le boire des jeunes était un boire de l'ombre. En l'occurrence, c'était un boire d'ailleurs qui était lié au flirt avec les jeunes filles. C'est-à-dire qu'ils buvaient dans leur maison de célibataire. La bière était souvent apportée par les jeunes filles. C'était l'occasion de draguer, de flirter avec les jeunes filles. Mais c'était du coup un boire qui était à l'abri des regards, puisque c'était à l'intérieur des maisons de célibataires.
If you drink beer later bad, it's good for the santé. And maybe beer is good. It's good not bad. You understand my English? Okay, thank you very much. You're welcome to Italy.
À la fin de l'après-midi, une rumeur cristalline monte en un instant et résonne contre la falaise. Toutes les voix des enfants crient « Bourré, bourré !» Ils ont aperçu la nouvelle lune, petite fente, blanc d'œil de chinois qui dort les paupières entrouvertes ou qui jouit. Ils l'appellent afin qu'elle leur souhaite une bonne lune et qu'elle apporte de longues pluies. C'était Feuilleton Dogon, une émission d'Antonin Potoski, avec Jean et Emmanuel Saï, Lassie King Masasi, Kimiko Yoshida, Laurence Touré et Éric Joly. Les livres d'Antonin Potoski, Les Cahiers Dogon et Hôtel de l'Amitié, sont publiés aux éditions POL. Éric Joly a publié en 2004 « Boire avec esprit, bière 2000 et société Dogon », édité par la Société d'ethnologie, et avec Nuhum Guindo au Classique africain en 2003, « Le pouvoir en miettes, récit d'intronisation d'un Ogon ». Kimiko Yoshida a publié en 2003 « Marry Me » aux éditions Actes Sud, Ces photographies sont exposées jusqu'au 16 janvier au passage de Retz à Paris, dans l'exposition « D'une image qui ne serait pas du sang blanc, la photographie écrite 1950-2005 ». On peut joindre Emmanuel Saï et l'agence de voyage des étudiants Dogon à Bamako, Guinado Tour, par email à l'adresse suivante guinadotour@yahoo.fr, GPL, GUINADOTOURS, @yahoo.fr. À la technique, Marie-Dominique Bougot et Simone Ronget, réalisation Pierre Villers. Dans un instant, Alain Weinstein, du jour au lendemain.